Radio Okapi.
Le journal, Jocelyne Moussaoupondé.
Crainte des habitants de Bounia suite à l'arrivée en masse de la population de Djougou fuyant l'insécurité dans ce territoire. Assurance du maire de Bounia, des mesures sont prises pour sécuriser la ville. Rencontre Kabila, opérateur minier, c'est finalement ce mercredi au menu des discussions des dispositions du nouveau code minier bidé par les opérateurs de ce secteur. À suivre dans la seconde partie de cette édition, le dossier du jour, la revue de presse quinoise, l'invité et l'actualité sportive. Bonjour à tous, commençons en Ituri. Des folles rumeurs sur le plan sécuritaire courent les rues de Bounia et mettent la population en émoi. C'est la conséquence directe du conflit qui sévit dans le territoire de Djougou. Pour souffrir l'insécurité dans cette partie du pays, des populations et leur bétail ont trouvé refuge dans plusieurs quartiers de Bounia. Ce mouvement continu des déplacés pose des sérieux problèmes de sécurité. Intervenant au micro de Radio Okapi, le maire de la ville de Bounia rassure ses administrés. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la ville, affirme-t-il. Ferdinand Fimbo est au micro de José Deschartes Menga.
Au niveau de la ville, toutes les dispositions sont prises. Il y a des patrouilles mixtes qui sont intensifiées. Il y a même des positions qui sont déjà placées dans les lieux très sensibles de l'entrée de la ville. Et en plus de ça, il y a des services qui travaillent, il y a les autorités de base qui sont en train de travailler pour arriver à restaurer une paix totale dans la ville. Et ça, ce sont les quelques dispositifs que nous sommes en train de prendre pour parer un peu à la situation des mouvements intenses de la population à partir de l'intérieur vers le centre-ville.
Oui, il y a ce mouvement de population civile et de bétail de l'intérieur vers le centre-ville de Bounia. Donc, ce sont des mouvements qui sont contrôlés par vos services administratifs, tout de même.
Au départ, ce sont des mouvements qui ne sont pas contrôlés parce que vous voyez, les déplacements, ce sont des déplacements brusques. Et pour la plupart du temps, ce sont des fausses informations qui courent ça et là et qui déstabilisent des familles, qui déstabilisent les gens, tout un village. Les gens prennent le large sans pour autant savoir là où ils sont en train de partir.
Ferdinand Fimbo, maire de la ville de Bounia, est l'invité de ce journal. Vous le suivrez en long dans la seconde partie de cette édition. Vive tension hier, mardi, au quartier Kalebouka, dans la commune annexe à Lubumbashi. À la base, le meurtre d'un homme par des bandits armés. La population s'en est prise à la police et a saccagé plusieurs de ses bureaux. Pour disperser la foule et rétablir l'ordre, la police a fait usage de gaz lacrymogène. Jean Gandou nous fait le point.
Le quartier Kalebouka a retrouvé son train-train habituel ce mardi, peu avant midi, après une matinée mouvementée. Aux environs d'une heure du matin, des bandits armés ont opéré dans plusieurs maisons où ils ont emporté de l'argent et ont blessé un homme par balle. Arrivés dans la dernière, ils ont voulu violer la femme du propriétaire boulanger de son état. La femme s'est opposée en leur montrant son bébé de 2 semaines, rapportent des témoins. Ils l'ont conduite dans la chambre pour abuser d'elle. L'homme les a suivis, c'est alors qu'ils lui ont tiré dessus. Il est mort sur le coup. Peu avant de s'enfuir, ces bandits ont créé la panique en tirant à l'air. Pris de colère, les habitants de ce quartier sont descendus dans la rue et ont barricadé la route avec des pneus enflammés. Alertée, la police est arrivée sur les lieux et voulait récupérer les corps ensanglantés qui gisaient par terre. Elle s'était butée à la résistance de la population qui l'accusait d'être venue en retard après le forfait. Pour cela, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule en furie, renseignent les bourgmestres de la commune annexe. Le corps a été enfin récupéré et amené à la morgue. La population est allée saccager les bureaux de la police et s'en est aussi prise à tous les bureaux des services de l'État du marché de Kalebouka. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Kasaï Central, la société civile de la localité de Chimpanga du secteur de Ditabaï, en territoire de Dibaya, accuse des militaires des FRDC d'avoir abattu 2 personnes et incendié plus de 40 maisons. Ces incidents ont eu lieu le week-end au passage de l'armée dans cette région. Cette information est rejetée par le commandant du secteur opérationnel des FRDC au Grand Kasaï. D'autres détails avec Blaise Ndongala.
Des sources proches de cette société civile indiquent que ces militaires étaient à la recherche d'un chef milicien. Ne l'ayant point trouvé, ils ont incendié plus de 40 maisons et ont abattu 2 personnes accusées de connivence avec les présumés chefs miliciens. Après ces forfaits, rapportent nos sources, ces agents de l'ordre se sont adonnés au pillage des animaux domestiques. Ils n'ont même pas épargné les produits agricoles trouvés à leur passage. Face à cette situation, le village Chimpanga s'est vidé de ses habitants qui ont trouvé refuge dans les localités environnantes. Joint au téléphone, un activiste des droits de l'homme du coin, qui a requis l'anonymat, redoute le pire car, selon lui, les habitants de Chipanga, dans leurs abris, vivent dans des conditions difficiles et leurs enfants ne fréquentent même pas l'école. Cet activiste exhorte les autorités politiques à restaurer la paix sur place en retirant les militaires. Contacté, le commandant du secteur opérationnel de FARDC au Grand Kasaï reconnaît que ses agents de l'ordre mènent une opération de traque du chef milicien Nzabanga. Toutefois, le général Marcelin Assoumani rejette les allégations à charge de ses militaires.
En bref, le HCR s'est dit vivement préoccupé par la situation dans la région du Kasaï où l'instabilité persistante menace la sécurité des civils, y compris pour plusieurs centaines de réfugiés récemment rentrés d'Angola. S'exprimant hier à Genève, une porte-parole du HCR a indiqué que le conflit du Kasaï a forcé plus de 35 000 Congolais à fuir en Angola en quête de sécurité. Cependant, le HCR affirme avoir appris avec une vive inquiétude l'expulsion de 530 Congolais depuis l'Angola vers la RDC entre le 25 et le 27 février dernier. Les retours se sont déroulés malgré les demandes réitérées par le HCR aux autorités angolaises de procéder à un examen conjoint de la situation du groupe non enregistré en matière d'asile. Le HCR exhorte les autorités angolaises à cesser les refoulements de Congolais vers leur pays d'origine. En cas d'amélioration de la situation à RDC, le HCR se tient prêt à apporter son appui aux autorités de la RDC et de l'Angola dans leur discussion sur les rapatriements librement consentis, ajoute la même source. Et puis, les résultats du dialogue mené par l'ONG internationale Appel de Genève auprès de quelques groupes armés du Nord Kivu ont été portés à la connaissance du public à travers une table ronde organisée hier mardi à Goma. C'était en présence des acteurs humanitaires qui sont intervenus pour apporter leur contribution dans le but d'améliorer leurs actions en faveur des populations déplacées. Pour Tony Kiumbe, coordinateur national d'Appel de Genève en RDC, le respect du droit international humanitaire par les acteurs armés non étatique pourra être un soulagement pour les déplacés internes. Tony Kiumbe au micro de Freddy Bikombi.
Nous, comme Appel de Genève, nous travaillons dans la sensibilisation de groupes armés afin qu'ils puissent adhérer aux normes internationales humanitaires. Donc, ce que nous avions pu vous présenter, c'est juste un échantillon, mais nous allons poursuivre avec ces dialogues dans le but de faire en sorte qu'ils puissent vraiment améliorer leurs pratiques et finalement adhérer aux normes internationales humanitaires. Et par là, nous entendons un impact positif de la protection de la population civile dans des zones à influence de groupes armés.
Justice à présent, un militant du mouvement citoyen Filimbi, acquitté hier lundi par le tribunal de paix de Kindu. Il était accusé d'avoir propagé de faux bruits contre le régime en place. Roger Katanga Mwenemali était détenu depuis le mois de décembre 2017 à la prison centrale de Kindu, dans le Maniema. En l'absence d'éléments de preuve devant justifier sa détention, les juges ont décidé de l'acquitter. Suivez la réaction de l'un de ses avocats, maître Jérémy Ramazeni, exprime sa satisfaction au micro de Mathieu Ilunga.
Mon sentiment est de satisfaction parce que le tribunal vient d'acquitter notre client. Il a passé probablement 2 mois dans la prison centrale de Kindu. Donc le juge a été à la hauteur de leur tâche. Ils ont dit clairement le droit. D'une manière scrupuleuse, ils ont rendu le jugement et nous ne pouvons que applaudir et que les autres magistrats puissent emboîter les pas. Bon, selon le ministère public, il a été arrêté pour propagation de faux bruits. C'est-à-dire, il y a eu même un tract qui avait été annexé à son dossier qu'il aurait répandu des faux bruits selon lequel on ne voulait plus du régime en place, mais il n'y a pas eu des éléments pour pouvaient servir le juge afin d'asseoir la culpabilité de notre client. Donc c'était d'une manière farfelue que notre client avait été amené par devant le juge.
Initialement prévu pour hier, c'est finalement aujourd'hui que la rencontre entre le président de la République et les opérateurs miniers doit avoir lieu. Au menu, les inquiétudes exprimées par ces derniers quant au contenu du nouveau code minier dont certaines dispositions mettraient en mal leur activité. Adopté par le Parlement depuis la fin du mois de janvier, ce code devrait en principe être déjà promulgué par le chef de l'État et nombreux plaident pour sa promulgation. Pour l'analyste économique Jérôme Sekana, le nouveau code minier constitue un partenariat gagnant-gagnant puisqu'il réhabilite l'État congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes tout en protégeant les intérêts des investisseurs du secteur. Par conséquent, ajoute-t-il, le chef de l'État n'a pas d'autre choix que de les promulguer. Jérôme Sekana, analyste économique et coordonnateur national de l'ONG Toile d'Araignée, est joint par Pelekipelamondo.
Avec l'ancien code, le trésor public engrangeait quelque chose comme 800 millions de dollars l'an. Mais avec le nouveau code, le trésor public peut encaisser au-delà de 2 milliards de dollars américains l'an. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Ces nouveaux codes essayent de réhabiliter l'État congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes, mais également protègent. Je dis bien protège les investisseurs miniers dans le secteur et renforce le partenariat qui existe entre l'État et ces miniers-là. Donc, c'est normal que les opérateurs économiques du secteur minier puissent demander l'audience auprès du garant de la nation. Ce qui est vrai est que ça sera difficile au chef de l'État de faire marche arrière parce que s'il ne le fait pas, est-ce que les partenaires au développement qui ont promis l'argent sans débloquer cet argent en 2011 pour financer les élections, vont le faire cette année alors qu'ils ont déjà posé des conditionnalités. Et puis les élections, c'est un problème de souveraineté. Donc ça serait une fierté nationale que de mobiliser à travers notre fiscalité les moyens qui sont disponibles. Nous avons une grande capacité contributive.
Radio Capi n'a pas été en mesure de recueillir la réaction d'un opérateur minier. L'un d'eux, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, a déclaré, je cite, « Nous avons pris l'option de ne faire aucune déclaration dans les médias à ces sujets ». Fin de citation. Toujours au chapitre économie, la Direction générale des douanes et accises et l'Office de gestion du fret multimodal ont lancé hier mardi à Kinshasa la campagne de sensibilisation de leur protocole de collaboration. Ces protocoles, qui remontent à 1995, a été révisé en décembre 2017. Son objectif, permettre à ces deux institutions de participer à la maximisation des recettes publiques. Daniel Tambizoni pour plus de détails.
La sensibilisation commencée par les agents et cadres du guichet unique de l'aéroport de Ndjili. Par ce protocole de collaboration, l'OGFREM, qui est à l'origine des marchandises embarquées en destination de la RDC, donne à la DGDA les informations relatives, lesquelles informations permettent à la DGDA de prélever correctement le droit dû au trésor public. Patient Saïba est le directeur général de l'OGFREM.
Avoir un texte adapté qui puisse permettre à la République démocratique du Congo non seulement de jouer son rôle de facilitation pour que la République démocratique du Congo soit une destination d'affaires, mais qu'aussi la République démocratique du Congo puisse se donner les moyens de sa politique par la collecte des recettes du Trésor et des services connexes.
Ce rapprochement entre le GFREM et la DGDA va aider à la traçabilité des marchandises et éviter la fraude douanière et des fausses déclarations. Le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Kabila, en donne un autre avantage.
Dans la valeur en douane est intégré le fret. Et le fret, ce sont des informations sur le transport des marchandises. Alors ces éléments-là, quand on les intègre à la valeur, on peut taxer correctement les droits de douane qui frappent la valeur frappée valeur 6.
Après Kinshasa, cette campagne va se poursuivre dans d'autres provinces de la République.
Et puis, les responsables de la DGM et ceux de la police opérant dans le couloir piétonnier à Kasumbalesa demandent aux requérants qui sollicitent le jeton pour la visite transfrontalière de ne verser aucun rond pour acquérir ce document. La traversée est gratuite. Ils demandent à la population de dénoncer toute tentative de monnayage de ce document. Cette déclaration fait suite au SOS lancé dimanche par certains requérants obligés de débourser 1000 francs congolais pour acquérir le jeton. Que s'est-il réellement passé, Karine Topé?
Ce dimanche, de longues files d'attente sont observées devant le bureau de la DGM dans le couloir piétonnier. Les requérants, pour la plupart, les petits commerçants sont inquiets. Ils se rendent du côté Zambie pour s'approvisionner, mais l'opération d'octroi du jeton prend du temps. L'impatience se lit sur leur visage. Certains affirment avoir passé plus de 3 heures à attendre. Et du coup, la bousculade commence. Les requérants haussent le ton pour exiger d'être servis. Les éléments de la police commis à ce poste et certains agents de migration exigent que les requérants mettent la main à la poche. Les uns payent 1000 francs, les autres 2000, d'autres encore 3000 francs. Témoignage.
Les agents sont là, ils donnent les jetons seulement à ceux qui ont 1000 francs et la police prend ça et donne les jetons aux personnes qui ont 1000 francs. Nous qui n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de jetons. Ça, c'est la corruption.
Pour la DGM Kasumba Lessa, depuis le 14 décembre dernier, le jeton pour la visite transfrontalière se délivre gratuitement sur toutes les frontières à travers le territoire national. Ceux qui le monnaient sont des hors-la-loi qui seront sanctionnés. Les responsables de la police des frontières affirment eux aussi que les éléments qui se sont compromis dans cette affaire seront déférés devant les instances judiciaires parce qu'ils ternissent l'image de la police et du pays. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Kapi.
Actualité, Afrique monde.
Au Togo, la coalition des 14 partis et de l'opposition appelle à manifester. Cette coalition avait pourtant promis, dans le cadre du dialogue, suspendre toutes les manifestations de rue, mais sa décision n'est plus à l'ordre du jour. Selon un communiqué de la coalition, cette décision énumère deux faits qui en sont les causes. D'abord, il y a le passage à tabac des populations du village natal du leader du PNP par les militaires dans la nuit du 24 au 25 février dernier, une attitude contraire à l'esprit d'apaisement souhaité par tous, indique le communiqué. Ensuite, depuis le 1er mars, les présidents des commissions électorales locales indépendantes ont été nommés, montrant ainsi, ajoute le communiqué de l'opposition, sa volonté de continuer à conduire de manière solitaire et unilatérale le processus électoral, malgré la demande contraire émise par le dialogue. Au Niger, la grève des enseignants-chercheurs se poursuit à l'université de Niamey. Depuis le 20 février, ils protestent contre l'agression il y a un mois d'un des leurs. Le syndicat dit vouloir en finir définitivement avec l'insécurité qui règne sur le campus et les agissements de la CASO, l'organisation qui gère les œuvres sociales des étudiants, mais qui fait aussi du maintien de l'ordre. C'est cette organisation qui a menacé et bousculé l'enseignant agressé il y a un mois. La goutte d'eau de trop pour les professeurs qui exigent l'exclusion des étudiants agresseurs et la dissolution de l'organisation étudiantine accusée de jouer les gros bras à l'université.